Koumang avec l'architecte Franck Guéry ce matin surtout. C'est parti. La beauté de cette chaise, c'est qu'elle ne dit pas son nom. C'est une chaise longue, recouverte de cuir, si confortable qu'on jurerait qu'il s'agit d'un lit. Une chaise qui vous bascule, si bien qu'on est presque couché quand on s'assoit dessus tout en étant assis. Une chaise aux formes arrondies, loin de la chaise droite qui se moque du bien-être et du confort. C'est une chaise qui ne dit pas son nom aussi, parce qu'elle défie les canons, les codes, les conventions du salon. D'abord parce qu'elle s'inspire d'un fauteuil médical, parce qu'elle évolue suivant les lignes du corps, et parce qu'elle naît de l'observation, figurez-vous, de tubes d'avion. Tu parles d'une inspiration si pure, si simple, si mobile, avec sa matière de cuir et d'acier qui jure avec le bois d'alors, c'est un objet radical à la gloire du métal. Elle est si moderne qu'elle trouvera la gloire dans les années 50 justement, c'est d'ailleurs beaucoup plus tard, cette chaise qui ne dit pas son nom littéralement, puisqu'elle s'appelle aujourd'hui LC4, LC pour Le Corbusier, alors même que le maître ne l'a pas dessinée. Au tournant des années 30, elle ne disait pas non plus son nom, elle avait été déposée au nom de Madame Schulfilf, Monsieur Charles-Édouard Jeanneret dit Le Corbusier et André-Pierre Jeanneret. Mais la vraie histoire, c'est que c'est elle qui l'avait créée, elle, Charlotte Perrion, dont on avait effacé même le nom de femme mariée tranquillement, et qu'il s'agit quand même de réhabiliter, ne serait-ce que pour la beauté.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelle forme mon invité d'aujourd'hui donne-t-il à la beauté? Ses lignes, ses volumes, ses jeux de lumière en ont fait l'un des architectes les plus admirés dans le monde entier. Parmi ses réalisations les plus emblématiques, le musée Guggenheim à Bilbao, la Cinémathèque à Paris, la Maison Dansante à Prague ou encore la Fondation Louis Vuitton. C'est dans ce vaisseau de verre qu'on pourra découvrir dès aujourd'hui l'exposition consacrée à la designer, architecte, artiste, sa consœur, Charlotte Perrion. C'est l'un des grands événements culturels de cet automne et c'est une joie de le recevoir pour en parler. Bonjour, Franck Guéry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, pour vous, qu'est-ce qui fait la beauté d'une chaise? Tiens.
Vous savez, j'en ai conçu des chaises moi-même. C'est la chose la plus difficile à concevoir. Aux États-Unis, quand on conçoit une chaise pour la production de masse, eh bien, elle doit répondre à des critères pour les tests. Il y a des tests pour la longévité, la solidité. Et je me suis mis à concevoir une chaise qui ne pesait que 3 kilos. Parce que j'ai vu une chaise, je ne me souviens plus de laquelle, conçue par un concepteur de renom. J'ai travaillé sur ce sujet et j'ai réussi à le faire. Et en regardant l'œuvre de Charlotte Perrion dans le domaine des chaises, elle n'avait pas ces problèmes des normes réglementaires.
Cette chaise longue, conçue par Charlotte Perrion il y a 90 ans, l'année de votre naissance, qu'est-ce qui attire votre attention quand vous la regardez? Qu'est-ce qui vous émeut?
Il y a cette élégance, cette douceur. On le voit à travers son œuvre, spécialement en cours de cette exposition. On sent cette élégance, cette douceur qui ne s'impose pas à vous. Elle est délicate. Il y a quelque chose de spécial dans ses mains, dans sa pensée, qui nous parvient dans son œuvre et qui est sa quintessence.
Comment, pour quelle raison un meuble traverse-t-il l'histoire, à votre avis? Pour quelle raison un meuble devient-il iconique, tiens?
Ce sont des merveilleuses sculptures que les gens utilisent de façon continue et qu'ils choisissent pour leur habitat. Je crois qu'il y a une simplicité. C'est monofonctionnel, il n'y a qu'une seule idée. Elle est exprimée de façon économique. On sent l'économie de la chose et sa puissance, sa beauté sculpturale. C'est facile de s'enthousiasmer pour une chaise.
Et c'est vrai que les meubles conçus par Charlotte Perrion, ils s'inscrivaient au sein d'espaces aussi très réfléchis. En quoi l'espace dans lequel on vit, les objets qui nous entourent, ont-ils une influence sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons, Franck Guéry?
Ah, that's a harder one.
C'est une question difficile.
Certainement,
l'environnement au sein duquel on vit a un effet sur votre vie quotidienne. Je crois que c'est la chose qui vous est la plus proche. Ça vous enveloppe. C'est avec vous sans cesse.
À quoi ressemblaient, par exemple, les maisons ou appartements dans lesquels vous avez grandi, vous? Comment est-ce qu'ils étaient organisés, aménagés?
Les appartements au sein desquels j'ai vécu étaient simples, pas très élégants. La famille était pauvre. C'était juste quatre murs.
Mais
quand je conçois, quand je fais du design, je le fais pour le confort, pour la sculpture, l'enrichissement.
Et quand est-ce que vous avez compris que l'aménagement de l'espace, c'était un art?
Lorsque j'ai étudié l'architecture, j'ai commencé par l'art. Et dans l'histoire de l'architecture, l'architecture a toujours été considérée comme un art. La plupart des grands artistes sont devenus architectes comme Giotto et Michel-Ange. Donc, ça a toujours été de l'art, d'une certaine manière.
D'ailleurs, dans le texte que vous avez écrit pour l'exposition consacrée à Charlotte Perriand à la Fondation Vuitton, vous parlez de sculpture, Franck Guéry. En quoi le travail de l'architecte et du designer consiste-t-il à sculpter l'espace ?
Je crois que c'est intuitif. On tente des choses. Il n'y a rien d'imposé. La beauté est fuyante, mais elle est naturelle. On peut la trouver si on la cherche. Et puis, elle est dans l'œil du spectateur. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que moi je considère comme beau. Ça peut être considéré comme laid par d'autres. Mais moi, je me sens positif lorsque je fais quelque chose pour le bien.
Oui, et il y a toujours cette idée, c'est vrai, de créer un lieu dans lequel on se sente bien, dans lequel on se sente chez soi. Pourquoi est-ce que vous sentez à l'aise, vous, par exemple, dans les espaces de Charlotte Perriand, Franck Guéry? Il est lié à quoi, ce sentiment?
Quand je suis rentré dans l'appartement de Charlotte Perriand, où sa fille vit actuellement, j'ai senti que c'était une sorte de miracle. Ce tout petit immeuble, ces toutes petites pièces, petits espaces, visuellement, ils étaient très beaux.
Et
dans le toucher, c'était beau aussi. Quand on descend les escaliers, vous mettez la main sur la rampe, et c'est ce bois doux qu'elle a créé. Et tout était réfléchi. Et sa douceur de sa personnalité passait par là. Je souhaite que tout le monde pourrait avoir cette expérience de cette maison pour comprendre Charlotte Perriand. L'exposition de Louis Vuitton est spectaculaire.
Ce dont vous parlez, et c'est passionnant, c'est évidemment l'humanité, c'est cette échelle humaine. L'humain, c'était une des grandes préoccupations de Charlotte Perriand, qui n'a jamais hésité à dénoncer, à combattre l'insalubrité des logements dans les années 30, qui a conçu des logements sociaux, étudiants notamment. Ça, c'est quelque chose qui vous parle forcément, Franck Guéry.
Yes.
Oui.
I do. I'm doing a lot of work.
Je travaille beaucoup dans ce domaine actuellement.
Fortunately, I have the time.
Et heureusement, j'ai le temps de le faire et je passe du temps pour l'éducation et les habitations bon marché, des choses de ce genre-là. Elle aimait les gens. Elle voulait aider les gens, les rendre heureux. Quand vous allez voir cette exposition, vous allez avoir ce sentiment. C'est une sorte de miracle. J'ai senti sa présence dans l'exposition. J'ai senti sa générosité. Et le miracle, je crois, c'est que c'est une femme qui a travaillé avec certains des plus grands artistes et elle les avait en tant que collaborateurs. Et c'était sur un pied d'égalité. On sent que c'est pas Léger qui lui disait quoi faire. Elle disait aussi à Léger quoi faire. Et ça passe à travers, véritablement, comme étant une véritable collaboration. C'est unique. Il n'y a pas beaucoup de gens comme Charlotte Perriand qui travaillent aujourd'hui avec des artistes. Vous savez, les architectes et les artistes, la profession architecturale crée ses propres monstres aujourd'hui. Donc je pense que c'est unique. Et j'ai toujours aspiré à cela en travaillant avec des artistes. Parce que ce sont mes amis, je viens de ce monde-là.
Celle qui n'est pas artiste dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Franck, c'est la culture. Et son actualité qui ne pense qu'à sa pomme. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 2 octobre?
Toutes les cloches sonnent, sonnent.
Mella s'en va. Avant-dernier compagnon de la chanson, le ténor René Mella s'était éteint lundi. Il avait 93 ans. Formation vocale à l'ancienne, parrainée par Montand ou Aznavour. Les compagnons s'étaient rendus célèbres après la libération, écumant les cabarets, accompagnant Edith Piaf notamment. On leur doit plus de 350 titres issus de la chanson populaire et du folklore, notamment ces trois cloches, Le Galérien ou Si tu vas à Rio, R.I.P. René.
Je pense m'approcher d'une situation où il soit possible pour les lecteurs blancs, les lecteurs noirs, d'aborder une œuvre littéraire sans toutes ces barrières.
Morrison, nouvelle, l'immense Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, disparu le 5 août dernier, a écrit une seule nouvelle. C'était en 1983, titrée « Récitatif », elle met en scène deux femmes, l'une noire, l'autre blanche, pour dénoncer toujours l'exclusion, l'oppression, la domination, événement. Le texte est publié aujourd'hui dans la revue America, de quoi nous faire patienter jusqu'à demain, et la publication aux éditions Bourgois de « La source de l'amour propre », ultime recueil d'essais de l'icône. Vers le Nirvana et au-delà, le 1er novembre, on célébrera les 25 ans du mythique concert MTV Unplugged in New York, enregistré par Kurt Cobain et sa bande en 1994. Pour l'occasion, les ayants droit du groupe vont rééditer la performance sous forme d'un vinyle anniversaire. On y retrouvera évidemment la reprise de The Man Who Sold the World de Bowie, mais aussi des sessions de répétition presque introuvables de Polly, Plateau ou encore Come As You Are. Vous savez quoi ? Here we come. Et mercredi de chaise longue, ciné en grande pompe, car aujourd'hui dans les salles obscures, on vote pour Alice et le maire, la réjouissante comédie politique de Nicolas Pariser. On plonge dans Atlantique, la fable onirique, renversante, récompensée d'un grand prix à Cannes, et signée Mati Diop, qui était notre invité lundi. Et puis sinon, on va mieux, grâce à Psychomagie, un art pour guérir, le documentaire de l'inoxydable Alejandro Jodorowsky. Oh oui! Franck Guéry, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour l'exposition Charlotte Perriand, notamment qui débute aujourd'hui et jusqu'au 24 février à la Fondation Vuitton. Cette fondation dont vous êtes l'architecte, Franck, et ce qui est intéressant, c'est que s'établit à certains moments de l'exposition un dialogue entre vos œuvres. Je pense notamment à la maison de thé de Charlotte Perriand qui trône sur le toit de la Fondation. À votre avis, qu'est-ce qui se raconte entre vos deux constructions? Quel dialogue a lieu?
I'm honored.
C'est un honneur pour moi qu'il y ait une relation visuelle. Je l'ai ressenti moi-même. Et je me suis senti à l'aise. J'aime ça.
Peut-être que c'est l'ouverture vers le ciel, le puits de lumière, les formes rondes aussi, le mouvement. Franck Guéry, pourquoi vos bâtiments ont-ils si souvent l'air de danser?
Après le modernisme qui était froid et rectiligne principalement, mes pères ont commencé à regarder vers le passé. Moi, ça m'a un petit peu piqué. Et j'ai donné une fois une conférence et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous devez revenir au temple grec anthropomorphique? Pourquoi vous revenez pas à des millions d'années en arrière, les poissons? C'est pas quelque chose que j'avais pensé à l'avance. Et je me suis rendu compte que les poissons sont architecturaux. Ils bougent. Regardez, par exemple, les estampes d'Hiroshiga représentant des poissons. Elles sont merveilleuses. J'ai toujours cherché une façon d'exprimer dans l'architecture le monde d'aujourd'hui. Les avions, les voitures, tout ce qui bouge vite, vite. Et comment est-ce que l'architecture rentre dans cet environnement? Et quand j'ai commencé à réfléchir aux poissons, c'était vraiment accidentel. Je me suis rendu compte qu'il y avait un lien dans le sens du mouvement, et c'était architectural. Et donc j'ai réalisé un poisson pour une maison de mode de 12 mètres de long en bois. C'est Chinechita qui l'a réalisé pour moi. Et c'était le morceau kitsch le plus horrible que j'ai jamais vu. Mais quand on était debout à côté, on avait véritablement le sens du mouvement. Et tout le monde a ressenti cela. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser les courbes.
Et le mouvement vient aussi de la lumière. Pour l'architecte que vous êtes, quelle matière est-ce que c'est, la lumière?
La lumière, c'est quasiment essentiel, tout. Une fois que j'ai commencé à réaliser les courbes, je me suis rendu compte que la lumière était éphémère. Lorsqu'elle frappait les courbes, elle disparaît. Elle change. Et donc, j'ai tenté de la comprendre dans les bâtiments. Et récemment, nous avons construit un immeuble à Arles.
Oui, la fondation Luma.
Luma, oui. Et ma cliente, Maya Hoffman, était intriguée par ces idées dont je parlais. Et donc, nous avons fait que la peau était avec des blocs placés à des angles légèrement différents. Donc, ça accrochait la lumière et ça changeait toute la journée.
C'était comme peindre avec la lumière, en fait.
Oui, peindre avec de la lumière. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, cette découverte, en fait, le soir à Arles, la lumière devient celle de... des tableaux de Van Gogh.
Quel lien est-ce que l'architecture entretient avec la peinture pour vous?
Rauschenberg. Lorsque j'ai découvert Rauschenberg, et ça remonte aux années 60, je pense, j'étais très enthousiasmé par son œuvre. Je l'ai bien connu. J'ai passé beaucoup de temps à parler avec lui. Et il a eu une grande influence sur moi.
En tout cas, les arts ont une place très importante chez vous, dans votre travail d'architecte. Quelle place est-ce qu'ils avaient dans votre enfance, dans votre famille, Frank Gehry?
Nous étions pauvres, donc il n'y avait pas de tableaux ou de sculptures à la maison. Ma mère m'emmenait au concert pour écouter la musique classique. Elle m'emmenait au musée d'art à Toronto.
C'est intéressant parce qu'il se trouve que des lieux consacrés à la musique, vous en avez conçu plusieurs. Je pense notamment au Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, à l'Auditorium Pierre Boulez à Berlin. La composition musicale et l'architecture ont toujours eu quelque chose à voir pour vous?
Je crois qu'il y a des liens entre beaucoup de choses comme ça, oui. J'écoute beaucoup de musique. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais du jazz et Bach. Parce qu'à Toronto, il y avait Glenn Gould qui est devenu très célèbre là-bas pour sa façon d'interpréter les variations Goldberg de Bach. J'écoutais beaucoup ça, je les écoute encore.
Quand est-ce que vous avez compris, Frank Gehry, qu'un édifice avait ce pouvoir de créer de l'émotion?
Ça a évolué, en fait, dans ma vie. C'était pas conscient. Eric Mendelssohn.
Einstein Tower.
La tour Einstein. Je l'ai rencontré, en fait. En fait, il était d'un abord assez difficile. Mais l'œuvre, les esquisses, le sens du mouvement, le sens du mouvement dans les esquisses de Mendelssohn sont interprétés dans ces bâtiments. C'est très beau.
Qu'est-ce que ça a produit chez vous?
Comme je l'ai dit précédemment, je recherchais une façon d'exprimer le temps que nous vivions. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le mouvement.
Et
là, il y a eu un petit truc qui s'est allumé dans ma tête. Et j'ai trouvé la méthode pour le construire de façon économique.
On va reparler d'émotion, de lumière, de passion, juste après Bruce Springsteen, tiens, I'm on fire, en 1984, vous êtes sur France Inter avec Frank Gehry, vous écoutez Boomerang.
Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no. I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull.
At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Malgré la sérénité qui émane de sa personne, on sent poindre une petite inquiétude, une sorte de nervosité, une envie d'être ailleurs, de mettre les mains dans le cambouis ou de se mettre à dessiner fiévreusement. Il a l'œil d'un bleu passé, il n'a pas de lunettes rectangulaires, il a le cheveu blanc, le sourire en coin et un petit costume très élégant. L'immense architecte Franck Guéry, invité de Boomerang ce matin, et à l'instant, je parlais de vos mains. Qu'est-ce que ça représente pour un architecte, ses mains, tiens?
Oh, I don't know.
Je sais pas.
I suppose they're expressive in some way.
C'est une façon de s'exprimer d'une certaine manière. Je sais pas. Je n'ai pas vu les mains de Picasso.
Vous diriez que le travail d'architecte est un travail manuel?
It's hand-eye coordination.
Oui, c'est une coordination entre la vision et la main. Je travaille beaucoup avec les maquettes. Et je fais toujours bouger les maquettes, les papiers, les bois. C'est intuitif.
Et
ce n'est pas prévisible. C'est comme ça, soudain, on découvre quelque chose. C'est intentionnel, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc j'ai appris à faire confiance à cela.
Ne
pas trop y réfléchir, trop analyser ce que je venais de faire. Les contraintes dans la construction d'un bâtiment sont tellement complexes. Le client, les problèmes, le budget, les règles, les règlements, la sécurité. Les contraintes sont énormes. Et donc la liberté, il ne faut pas trop poser de questions. Elle est déjà sous contrôle. C'est comme sauter hors d'un avion parce qu'on a un parachute.
Avant d'utiliser vos mains pour être architecte, quel genre de travail est-ce que vous faisiez, Franck Guéry, pour aider vos parents, notamment?
J'étais chauffeur de camion pour un fabricant de meubles.
Quand vous repensez à cette époque, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Avec le recul, je pense que c'était marrant, ce que je faisais. Je n'étais pas très bien payé. Je travaillais dur.
Et
j'aimais ça.
Vous dessiniez aussi?
Oui, un petit peu. J'ai jamais retrouvé les esquisses que je faites.
Mais à quel moment est-ce que vous êtes mis à dessiner des bâtiments?
Pendant mes études d'architecture, à un moment, je me suis senti suffisamment solide, les deux pieds sur le sol. Là, j'ai senti la liberté de dessiner. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, mais pendant mes études.
Vous voulez dire que ça met du temps pour qu'on s'autorise aussi?
Oui.
Et je faisais des petits jobs pour réaliser les bâtiments des autres. C'était intéressant parce que j'ai appris à dessiner des arbres. J'ai jamais appris à dessiner des êtres humains. J'ai jamais appris l'anatomie.
Vous aimeriez?
Yes, that's missing in my
Ça manque dans mon petit répertoire. Mon fils le fait.
Est-ce que vous diriez que vos dessins, ce sont des œuvres à part entière?
Je n'y pense jamais de cette façon-là. Mais on les collectionne.
Et qu'est-ce que vous ressentez, Franck Guéry, quand vous voyez l'un de vos dessins prendre forme dans l'espace, exister dans l'espace?
That's a miracle.
C'est un miracle.
And I look back and I can't
je regarde et je reviens pas.
And how did that happen?
Comment ça s'est fait? Comment est-ce que tel bâtiment arrive à être ainsi? Comment est-ce que je savais le faire? Je regarde la quantité de détails qu'il y a dans ces bâtiments. Je ne pose plus de questions. Si je me remettais en question, j'aurais des problèmes. Je dis, et voilà.
C'est vrai que c'est complètement fou. Par exemple, quand vous avez contemplé le musée Guggenheim que vous avez construit à Bilbao, à quoi vous avez pensé tout de suite ?
Je me souviens, je conduisais, je suis entré dans la ville, j'ai traversé le pont, je l'ai vu, et je me suis dit, mon Dieu, qu'ai-je donc fait à ces pauvres gens ?
Quelle est la construction dont vous êtes le plus fier, Frank Gehry ?
C'est comme si vous me demandiez quel est mon enfant préféré. Je ne peux pas répondre à ça.
Il y en a forcément un.
Oui, mais c'est comme dans la chanson. Si t'as pas ce que tu aimes, apprends à aimer ce que tu as.
Quelle trace est-ce que vous avez l'impression de laisser derrière vous aujourd'hui ?
Je n'y réfléchis pas de cette manière-là. C'est pas de la fausse modestie. Il y a un inconfort dans le fait que j'aurais dû faire mieux, changer une conception, et je serais trop conscient de cela. Ah, j'aurais dû faire ça autrement. Donc je cours vers l'avant plutôt.
Et puis je suppose qu'il y a aussi tous les rêves qui restent, les dessins, les idées auxquelles vous n'avez pas encore eu la possibilité de donner vie. Vous avez un bâtiment de vos rêves, vous ?
C'est toujours lié à cette trajectoire sur laquelle je me trouve. Depuis que maintenant je suis plus impliqué dans cette idée de peindre avec la lumière. J'ai toujours été, mais maintenant c'est plus concentré. J'ai ces images désormais que j'essaie de réaliser.
Et un lieu sacré, Frank Gehry ?
Je n'ai jamais été religieux. Rien de tel. Mais je comprends un espace transcendant quand je le vois. Quand on va à la cathédrale de Chartres, par exemple, là, je me sens ému, transporté.
Et je vous pose aussi la question, parce que je sais que dans votre éducation, dans votre parcours, l'étude du Talmud a été fondatrice. Qu'est-ce qui vous a appris le Talmud, à l'architecte que vous êtes ?
Je n'étais pas religieux. J'allais à l'équivalent juif du catéchisme en tant qu'enfant. Je travaillais bien, j'étudiais correctement. Mais mon grand-père, qui n'était pas religieux non plus, mais qui était quelqu'un d'éduqué, me lisait le Talmud. Et le Talmud commence par les mots « pourquoi ?».
La question.
Et la curiosité. Ça a toujours été quelque chose qui m'est resté à l'esprit. Il faut rester curieux et essayer, tenter des choses. Prendre des risques, questionner.
Alors ce sera ma dernière question, Frank Gehry. Quelle est la question que ne manque jamais de se poser un architecte ?
La question de la curiosité, la recherche, d'une idée, sans préconçu, et la découverte. Je demande toujours à mes étudiants d'apposer leur signature lors des premiers cours. On met les signatures sur la table, et je dis, chacune de ces signatures est différente. Ces signatures vous appartiennent, vous êtes différent. Vous avez donc déjà une signature. Si vous lui permettez de croître, si vous l'acceptez, voilà, il faut accepter qui on est. Et quand vous posez votre signature, ça vous dit qui vous êtes, visuellement. Et cette recherche-là, et lui donner la permission et poser les questions, eh bien, ça fait partie du jeu de notre être architecte.
La question, c'est qui êtes-vous ?
Si je le savais.
Merci infiniment, Frank Gehry. Thank you. D'être venu faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, le star architecte des langues, Michel Zlotowski. Je rappelle que l'exposition Le Monde Nouveau de Charlotte Perriand ouvre ses portes à la Fondation Louis Vuitton aujourd'hui et que vous pourrez vous y rendre jusqu'au 24 février. Ça vaut vraiment le voyage. Et tout de suite, les médias, celle qui est tout un voyage, Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça.
la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?
Vagalam Sœur, Vanessa Paradis sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.
Je suis là, Augustin.
À demain.
On se retrouve demain. On lance le boomerang et hop, il revient.
Il revient.
Fiu-fiu.
Fiu-fiu. Salut.